9h, c'est notre rendez-vous avec Émile Procloutier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler de l'étalement urbain. Ça a été un sujet de discussion depuis le retour en 2020. Et là, tu es allé voir certaines initiatives dans des villes. Et la première ville qu'on peut regarder de près, là, c'est Drummondville.
Oui. Alors, il y avait donc depuis plusieurs décennies une usine qui s'appelle l'usine Fortissimo qui était là et qui a été détruite récemment. Et la municipalité s'est consultée. Qu'est-ce qu'on fait avec ce grand terrain-là? 1 million de pieds carrés disponibles pas trop loin du centre-ville. Alors, ce qui a été retenu comme projet, c'est un projet résidentiel, mais pas seulement donc diviser ça en lots pour attribuer ça à plein de maisons. Ils se sont dit, on va construire un mini-quartier dans la ville, carrément, un vrai quartier avec, des condos, 374, des maisons de ville, 79 maisons de ville, ça, de différentes tailles. Mais bon, bâti en hauteur, pas trop haut, pas plus de 4 étages, mais avec des services, certains au rez-de-chaussée, un musée, des places pour faire du sport, des jardins communautaires, des espaces verts, des lieux, donc un milieu de vie, pas seulement un milieu de sommeil et de vie privée, mais comme un lieu où on peut être ensemble, le stationnement serait en dessous. Et donc, ce qui est avantageux dans cette initiative-là, c'est que c'est d'occuper des espaces déjà vacants au cœur de la ville plutôt que d'agrandir le territoire par l'extérieur. Donc, on bâtit, oui, un peu en hauteur, mais c'est ça, de créer un milieu de vie et pas seulement des petits espaces isolés. Et on développe la ville par l'intérieur plutôt que par l'extérieur. Et donc, c'est un peu la définition du terme densifier.
Tu dis que c'est près du centre de la ville, là.
C'est ce que j'ai lu. Je vous avoue que je suis pas allé moi-même avec ma trottinette pour vérifier, sauf que c'est tout près. Et l'idée, c'est aussi que tu peux sortir de chez toi et avoir accès à des services sans forcément entrer dans ta voiture. Donc, il y a une vie possible pour aller qui au musée, qui voir un spectacle ou carrément t'acheter une pinte de lait sans forcément embarquer dans ton char, ce qui est donc le principe de la densification. C'est l'architecte Pierre Thibault qui est derrière ce projet-là. Et ce que j'ai trouvé le fun dans le processus, c'est qu'il y a vraiment eu une consultation auprès des gens du milieu. Lui, il a comme dessiné deux versions du projet, puis il y a eu des assemblées. J'ai vu des photos, 400 personnes qui étaient là à venir au micro, puis soumettre des idées. Il pourrait avoir une patinoire, il pourrait avoir un plan d'eau. Et puis, il y a un dialogue donc entre la Sommité internationale d'architecture puis le monde sur place qui... Non, ils sont pas des experts, mais ont un sens d'observation, puis ont des idées, puis ont des flashs, puis lui, il écoute ça, puis il prend des notes, puis il revient leur présenter un nouveau projet après ça. Et ça me semble être une vraie belle intégration, donc de l'urgence, évidemment, de densifier, de moins s'étaler partout, mais aussi qu'il y a un vrai dialogue donc entre des spécialistes et le monde qui vivent sur place.
L'autre exemple, c'est la ville de Nicolet.
Oui. À Nicolet, ils travaillent à développer des subventions pour les commerces afin de les inciter à revenir s'installer au centre-ville, afin de recréer une proximité encore là de services, et pousse aussi au niveau de son développement à valoriser la construction d'immeubles de 4 logements ainsi que de maisons multigénérationnelles. Encore là, pour densifier. Évidemment, le modèle du bungalow avec chacun son territoire, chacun sa cour, il existe, il est là. Mais la mairesse nous dit qu'elle tente de pousser un autre modèle de développement auprès des promoteurs et aussi de développer des espaces verts, des espaces communs qui sont accessibles à tous, pour ceux qui n'auraient pas de cour, par exemple, mais qui puissent quand même profiter de l'extérieur puis jouer ensemble dehors. Il semble que ce soit un nouveau mode de pensée qui passe très bien auprès du conseil municipal, auprès des promoteurs aussi à qui elle en parle, il y a une ouverture, et auprès de la population aussi. Ce que nous dit Geneviève Dubois, la mairesse, elle dit on est rendu là, puis cette idée de densifier passe bien aujourd'hui. D'ailleurs, je fais un petit coup de chapeau par la bande à Nicolet, car on a appris à la fin de l'année dernière qu'ils s'étaient donné comme mission, eux autres, de réduire leur gaz à effet de serre de 20% de 2012 à 2020, ce qui était la cible du Québec qui n'a pas été atteinte à la grandeur du Québec. Mais Nicolet, eux...
Ils l'ont atteint.
Ils l'ont atteint. Ça a marché. Ils ont réduit de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2012 et 2020. Bravo, Nicolet. Bravo à votre mairesse. Continuez comme ça. Et quand je suis des espèces d'échanges, je ne sais pas si ça est arrivé aussi ça dans des lignes ouvertes ou quelque chose, il semble avoir une confusion autour du terme « densifier ». Très souvent, quand je lis des forums ou je lis du monde là, qui s'ostine, je fais ça des fois. On a l'impression que le mot « densifier » est perçu comme étant « Ah, vous voulez qu'on vienne tous vivre dans une grande ville. »
Cordé.
Oui, vous voulez qu'on vienne tous vivre dans un immense centre urbain tel Québec ou Montréal. Alors que ce que je comprends, en tout cas quand je lis du monde des spécialistes, c'est que « densifier », c'est pas tant « vivre tous en ville », c'est « vivre une petite coche plus près les uns des autres » dans une logique plus proche du village, disons, où t'es proche de tes voisins, t'es proche des services, plutôt que le modèle de la banlieue dortoir, disons, où est-ce que c'est vraiment que des maisons, puis la pinte de lait, mais est à 10-15 km de toi. Je sais pas d'où vient cette confusion-là, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup sur des forums en furetant, comme ça. Puis je sais pas si ça facilite le dialogue. Peut-être que, en tout cas, je prends la peine de leur définir aujourd'hui, du moins ce que j'en comprends, puis je vous laisse me contredire. On va mettre sur nos réseaux un lien vers un article du média 1.5 qui donc souligne des initiatives donc qui vont dans le sens de l'action climatique au Québec. Les Drummondville et Nicolet sont là, il y en a d'autres. Et évidemment, il y a des gens qui vont vers des solutions un peu plus radicales pour contrer l'étalement urbain. Ce qui est nommé à certains endroits, c'est peut-être il y a un retour du péage sur les autoroutes qui est évoqué. Je sais que ça va en faire frissonner plusieurs.
Ah non, mais c'est pas une idée marginale. Là. Et les autorités du Montréal métropolitain ont ça dans la tête depuis longtemps. Là. La technologie commence à le permettre. Et de facturer au kilomètre, dans le fond. Là,
L'objectif étant donc de décourager les gens d'habiter loin de leur travail.
Mais il faudrait bonifier l'offre de transport en commun. C'est parce que tu ne peux pas juste décourager l'automobiliste, déjà. Mais ce matin, hier, on faisait une tribune téléphonique. Puis les gens, c'est pas par choix, souvent, qui disent « je prends l'auto », c'est parce qu'il n'y a pas d'autobus ou les stationnements incitatifs débordent à partir de 6h30 le matin. Tu sais, il faut que tu aies une offre qui a de l'allure, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Effectivement, je comprends. Je vous suis. Puis, il semble que dans les chiffres que moi j'ai lus, il semble que depuis les 20 dernières années, à cause du développement donc de la troisième couronne de Montréal, il y a depuis 20 ans 100 000 voitures de plus chaque matin qui inondent le réseau.
En terminant, tu as un documentaire à nous proposer.
Là-dessus, c'est ça. J'aimerais ça. On va mettre un lien vers un film qui s'appelle « Main basse sur la ville » qui est disponible sur tout.tv. Ça parle pas seulement d'étalement urbain, mais vraiment qui sont les grands financiers derrière le développement des villes, notamment Montréal. Ça appartient à qui, le building? Qui a choisi qu'on construisait quoi, où? Ça relate une enquête journalistique d'un type un journaliste qui s'appelle Henri Aubin. Et à un moment donné, il y a un passage où il s'intéresse donc aux banlieues, donc à l'étalement urbain. Et il dit que lui, m'en est au début des années 70, il s'est questionné, écoutons, c'est qui les promoteurs, les sociétés financières qui sont derrière le développement des banlieues autour de Montréal? Et je le cite, il dit, parmi les nombreuses sociétés donc financières participant au développement de la banlieue de Montréal, il a remarqué que 90% partageaient un élément. Les propriétaires de sociétés avaient des intérêts dans l'industrie pétrolière, l'industrie automobile et l'industrie de la construction d'autoroutes. Donc, ils avaient tout intérêt, ces grands propriétaires-là, à inciter les gens à vivre en dehors de la zone urbaine, car ils consommeraient plus de leurs produits, pétrole, char, autoroute. Alors, c'est un enjeu émotif, mais je pense qu'il va falloir qu'on commence à être capable d'en discuter sans que les gens se sentent jugés de ça, parce que peut-être qu'il y a un nouveau modèle de développement qui est à inventer, parce que celui-ci peut-être arrive à sa date de péremption.
Merci, Émile. Et tous les liens seront sur le site web. Les gens vont trouver ça facilement. 9h09.